les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Amboise, Blois, Villandry, Chambord, Azay-le-Rideau, Langeais. Les châteaux de la Loire nous ont accueillis, lors de vacances en famille, de visites en groupe. Peut-être n'avons-nous pas pris le temps plus tard, c'est un tort, de refaire les châteaux de la Loire. En deux épisodes, Françoise Estève avait suivi pour lieu de mémoire cette route aquatique et exploré, dans le passé et le présent, rive gauche et rive droite, ces grandes figures historiques. Première diffusion sur France Culture de ce premier volet, le 28 juin 1997.
Lieu de mémoire. Les châteaux de la Loire, par Françoise Estève et Mireille Croz.
Tu vois là-bas en face, c'est la route qui mène à Amboise. Et c'est la route que prenait deux fois par semaine Léonard de Vinci dans un carrosse quand il allait rejoindre le roi de France. Là-bas, tu vois à droite cette espèce de château qui disparaît derrière des arbres et qui a l'air tellement irréel et qui ressemble à un château de la Belle au Bois Dormant, c'est le château d'Ussay. À gauche, c'est le château de Langeais avec le mariage de Charles VIII et de Anne de Bretagne. Tout au fond, les trois tours que tu vois sont les trois tours de l'église de Tours. À droite, là-bas au bout, c'est Montsoreau. Et j'ai compris, enfin j'ai senti, car on ne comprend pas ça, j'ai senti tout à coup que ce qui faisait l'étrangeté et le miracle de la Loire, c'était un étonnant ramassis d'histoire et de géographie française.
Donc là, on est dans une salle, évidemment, qui est assez intéressante et surprenante. C'est donc la salle du Conseil ou la salle des États. Donc c'était la salle qu'ont utilisé les souverains donc, pendant à peu près deux siècles, au moment de leur séjour en Val-de-Loire, au 15e et 16e siècle. Et donc c'était dans cette salle-ci qu'ils recevaient en conseil, en audience. Donc l'acte politique majeur s'effectuait dans cette pièce-ci. Et puis donc elle est intéressante aussi parce qu'elle confronte deux cheminées, l'une qui est purement Renaissance et l'autre qui est encore dans l'esprit gothique avec une haute pyramidale ici. Et donc il y a là, à mon avis, un élément intéressant, c'est-à-dire que ce basculement artistique que l'on observait sur les façades, on le retrouve à l'intérieur entre donc, le Moyen-Âge et la Renaissance.
Le jour, ben, il est offert, ce château. Et puis la nuit, ben, il faut aller le retrouver. Alors je l'ai traversé à toutes les heures de la nuit. Donc il prend des couleurs, des aspects, des sons qui sont assez extraordinaires. Ce qui fait que, moi je dis souvent, c'est une expression comme ça que j'ai utilisée souvent, et que j'essaye de donner à l'autre, c'est que je le tutoie, le château. Alors que c'est quelque part un petit peu un monstre au niveau de l'importance. Qu'on se dit qu'on est un peu effrayé par la disproportion de tout, et que si on arrive à parler le même langage que lui, parce qu'en fait c'est un langage vivant en pierre, ben effectivement on arrive vite à cette familiarité au tutoiement.
Architecture parallèle, non suppliante, poèmes et sonnets qui sont des châteaux et des palais, châteaux et palais qui êtes des sonnets et des poèmes, fleurs, feuilles, dentelles, robes et traînes de pierre, fleurs, feuilles, dentelles et robes et traînes de mots.
Quand on
regarde la formation du territoire français et qu'on voit notamment en lisant un texte qui reste toujours d'actualité, qui est un texte majeur de la Constitution de l'unité française, qui est la grande introduction géographique de Vidal de la Blache à l'histoire de France de la Vise.
Jean-Pierre Bablon.
On s'aperçoit que cette Loire occupe bien évidemment sur la carte de France, mais dans l'histoire de notre civilisation, un rôle très important. Donc nous avons un parcours considérable de la Loire, puisque entre Gien et Séran, on compte à peu près 250 km de long. Que cette Loire ne coule pas entre des falaises à pic, mais qu'elle a... Elle a ménagé une grande vallée, une vallée qu'elle irrigue, qu'elle fertilise, un petit peu comme le Nil. Nous n'avons pas un Val de Seine dans nos régions françaises, nous n'avons pas un Val de Garonne, nous avons un Val de Loire, parce que c'est véritablement une unité qui est faite par ce fleuve, qui est pourtant large, qui pourrait constituer une frontière et qui, contrairement à ce qu'on peut penser, constitue véritablement un courant civilisateur avec cette réalité des deux rives qui se font face.
En l'esprit du Val-de-Loire, j'hésiterais à le définir, il a été tellement bien défini avant moi par Dubellet.
Jean Favier.
Je serais tenté de dire qu'il est fait de diversité. De diversité des cultures, diversité des paysages. D'une unité, le ciel, et le ciel qui se reflète dans la Loire. Ce que l'on peut ramener à la douceur du Val-de-Loire. Il y a la douceur angevine, mais l'Anjou n'est pas seul. Il est fait aussi d'un passage. C'est un lieu de contact. Ce n'est pas par hasard que, aujourd'hui, les bulletins météorologiques vous disent au nord de la Loire, au sud de la Loire, et ça n'est pas toujours faux, c'est quelquefois à quelques kilomètres près que change le climat ou les microclimats. Mais les contacts culturels ont été considérables. Il ne faut pas oublier que la Loire, c'est à la fois une route et en même temps un lien. Je veux dire une route est-ouest et un lien nord-sud. Les ponts de la Loire sont essentiels pour cela. Mais voulez-vous penser que la Loire du XVe, la Loire du XVIe siècle, ce n'est pas cette Loire un peu déserte que nous voyons aujourd'hui avec quelques barques de pêcheurs. C'est une Loire que sillonnent, dans un sens comme dans l'autre, les bateaux marchands, les coches d'eau. On circule, on voyage par la Loire. Le sel des marais de Poitou et de la Bretagne méridionale remonte par la Loire. Et n'oublions pas que les vins de Loire sont estimés dans une grande partie de la France du Nord. Et que le vin de l'Orléanais, le vin d'Anjou, le vin de Touraine correspondent à la fois à des paysages et à des trafics, et par conséquent aussi à des fortunes. Il ne faut pas oublier que Tours a été, avant Lyon, la capitale de la soierie, que sur ce trafic de la Loire s'est toujours greffé un trafic, j'allais dire une circulation plutôt, d'idées. Entre Orléans, Tours, Angers, il y a un lien constant. Alors, terre de diversité, unité par le fleuve, unité par la position géographique de ce fleuve, je crois que oui, il y a un esprit du Val-de-Loire.
Notre Loire, monsieur Genevoix, toujours notre Loire, a eu beaucoup de visiteurs qui ont essayé de la peindre à leur manière. Paul Fort la voit jaune, Jules Lemaître bleu comme un lac, Hérédia blonde, Baudelaire verte et Ronsard crasseuse.
Il était vendômois, ça ne m'étonne pas.
Et vous, Maurice Genevoix ?
Eh bien, je la vois blonde, je la vois bleue, je la vois glauque. Elle est perpétuellement changeante. En réalité, c'est un miroir, en effet. C'est un miroir infiniment sensible. Et je crois, et c'est ici que je vais être tendancieux ou partial, doué d'une vertu qui lui est propre et que je dirais tout simplement miraculeuse. C'est une vertu de transmutation. Et en effet, ce miroir admirable transmute tout, qu'il s'agisse de la lumière, du nuage qui passe ou du bleu du ciel, Elle prend la lumière en quelque sorte, elle s'en pénètre, elle s'en imbibe, elle s'en imprègne, et elle la restitue sous le ciel, mais elle en a fait une chose transmise en effet, plus belle que la réalité. C'est pourquoi c'est vraiment un fleuve à rêve, c'est un fleuve pour poètes en définitive, et je ne souscris pas du tout à ce que disait mon ami Vlaminck, pourtant grand peintre et capable de saisir les nuances les plus fugitives du monde réel, comme disait Gautier, et qui, parlant de la Loire, mais c'était pour me taquiner, me disait « ton fleuve à suicide ».
Il faut distinguer des temps différents dans l'histoire du Val-de-Loire. Vous avez un Val-de-Loire, celui du haut Moyen-Âge, celui du Moyen-Âge féodal, autrement dit celui qui a longé à le visage de Foulquenérat, comte d'Anjou, mort en 1040. Foulquenérat, c'est un comte d'Anjou assez extraordinaire, c'est un homme brutal, violent, il massacre, il rase les monastères, quand il a rasé trop de monastères, il en fonde d'autres pour le salut de son âme, et pas en pèlerinage. À force d'aller en pèlerinage à Jérusalem, il mourra d'ailleurs sur le chemin du retour de Jérusalem. Foulquenérat, c'est quelqu'un qui entend assurer sa mainmise sur le Val-de-Loire. Et le château de Langeais, la forteresse de Langeais, qui a été construite, semble-t-il, par Foulquenérat, sur un piton qui domine le Val-de-Loire, qui contrôle par conséquent les routes. Et aucune armée ne peut passer sur la route des bords de Loire sans que de Langeais on ne puisse descendre immédiatement et la mettre à mal au passage. On est là dans une base d'intervention. Ce temps-là, c'est un temps où le Val-de-Loire est une région, j'allais dire, comme les autres, avec les mêmes problèmes d'affrontement des grands barons, donc de combats sur les, ce qu'on appelle pas les frontières, mais les marches, et par conséquent de construction de châteaux destinés à couvrir, destinés à assurer la mainmise sur un territoire.
Et effectivement, le Val-de-Loire a été le terrain des expériences de construction de ces châteaux. Et aujourd'hui, quand on fait le relevé de tous ces châteaux, mais surtout de tous ces donjons, de formes différentes, de formes carrées, de formes rondes ou polygonaux, on s'aperçoit que c'est essentiellement sur les bords du Loire, sur les bords du Loire ou les bords de la Loire, que l'on trouve les expériences les plus intéressantes. Et les fouilles ont prouvé l'antériorité de certains de ces châteaux par rapport à l'ensemble de la construction castrale en France. Dans ces donjons rectangulaires, nous avons des grandes masses qui restent encore dans le ciel de Val-de-Loire. L'Oche, notamment, qui est cette construction considérable, immense, magnifique et monumentale, vers 1100, donc tout à fait dans le même temps que Langeais. Donjon également à Montrichard ou à Beaugency. Donjon cylindrique, dont la perfection existe encore à Châteaudun, n'est-ce pas ? C'est une construction d'une pureté étonnante, et puis donjon polygonal à Chantillon, Coligny. Donc nous avons trois types de donjons qui se construisent au XIe, au XIIe siècle.
Qu'est-ce qui fait la beauté de ces donjons ? Parce qu'ils sont extrêmement majestueux, certes, mais ils pourraient apparaître comme une immense muraille. Or, ils ont une grâce.
Eh bien, c'est probablement la qualité du volume. Pour parler de Loche, notamment, les contreforts qui sont faits comme construits comme des demi-colonnes, n'est-ce pas, qui montent jusqu'en haut sans une altération, constituent véritablement une architecture par une masse, une qualité des proportions, mais aussi la beauté du matériau.
Il choqua donc si roi de Mansueux, sans dire gare, qu'il les renversait comme porc, frappant à tort et à travers à vieille escrime. Est-ce un escarbouillait la cervelle, est-ce autre rompait bras et jambes, est-ce autre délochoit les spondyles du cou, est-ce autre démouloit les reins. avale-toi le nez, poche-toi les yeux, fends-toi les mandibules, enfonce-toi les dents en la gueule, décroule-toi les omoplates, sface-toi les grèves, dégonde-toi les ischies, débasille-toi les faucilles. Est-ce autre, tant fièrement frappois par le nombril qu'il leur faisait sortir les tripes? Est-ce autre, parmi les couillons, perçoit le boyau culier? Croyez que c'est toi le plus horrible spectacle qu'on vit honque. Les uns criaient « Sainte Barbe !» les autres « Saint-Georges !» les autres « Sainte Nitouche !» les autres « Notre-Dame de Cunot, de Lorette, de Bonne-Nouvelle, de la Lenoux, de Rivière !» Les uns se vouaient à Saint-Jacques, les autres au Saint-Suaire de Chambéry, mais il brûla 3 mois après, si bien qu'on en put sauver un seul brin. Les autres à Cadouin, les autres à Saint-Jean d'Angéry, les autres à Sainte-Eutrope de Xinte, à Sainte-Même de Chinon, à Saint-Martin de Cande, à Saint-Cloud de Ciné, Esrelique de Javrezay et 1000 autres bons petits saints.
Et puis vous avez le Val-de-Loire du XVe siècle et du XVIe qui en est la continuation. Et là, c'est tout autre chose. Ça n'est pas une marche entre autres, une route entre autres, une région d'affrontement entre les princes, entre autres. C'est la région où Charles VII a trouvé son refuge lorsque, à partir du traité de Troyes, mais en fait à partir de 1418, il est privé de sa capitale. Son parlement, il l'établit à Poitiers, et sa chambre des comptes, son parlement, une université même à Poitiers, lui assurent une indépendance institutionnelle, une indépendance intellectuelle. Donc, c'est une véritable royauté qui s'établit sur les bords de la Loire, entre Bourges, qui n'est pas sur la Loire, et cette région d'Amboise, de Langeais, où de nouveaux châteaux vont s'élever.
Paris va être occupé par le pouvoir anglais, par le régent anglais, par le jeune roi anglais, et on va donc rechercher dans ce cœur de la France, centre géographique de la France, une possibilité de vivre, d'organiser le pouvoir et la domination, mais aussi succomber à un charme de ce pays qui permet pour le roi, ce qu'il ne connaissait pas à Paris, au Louvre notamment, ou au Palais de Justice, ou même dans des résidences plus agréables de Paris, comme le Palais des Tournelles, ce qu'il ne connaissait pas, c'est la liaison immédiate entre son lieu de résidence et puis la campagne, le plaisir de la chasse, le plaisir de se retrouver en liberté dans la nature, dans ce paysage de la Loire. Et il est étonnant de voir que Charles VII reviendra, que Louis XI s'installera entièrement dans cette région, et que tous les rois valois, c'est-à-dire Charles VIII, Louis XII, François Ier jusqu'en grands événements qui vont briser la continuité du règne avec les guerres d'Italie, vont être essentiellement des hommes de la Loire. C'est finalement cette présence monarchique, cette pérennité monarchique qui va donner ce coup d'envoi à ces constructions des châteaux de la Loire qui intéressent bien évidemment non seulement les rois mais également tout leur entourage, mais qui constituent un foyer de création très particulier qui est un phénomène de l'histoire de l'architecture, de l'histoire du goût, de l'histoire de la société aussi, attaché donc à cette région médiane de la France autour du cours de la rivière.
Pas un hasard si le château d'Amboise a été construit ici, c'est qu'on est à la confluence en fait de deux vallées.
Jean-Louis Sureau.
Sur un éperon donc rocheux, avec d'un côté le Val de Loire, la vallée de la Loire, et puis de l'autre côté une toute petite rivière qui s'appelle la Masse, mais qui ouvre une très grande vallée, ce qui fait que le site est naturellement très très bien défendu. On a juste un flanc extrêmement étroit qui est vulnérable sur la partie est du château, et en fait cet éperon rocheux, si vous voulez, permet bien armé de définir un espace très très bien protégé. Et donc le château d'Amboise, le site même d'Amboise, est un site très très ancien. C'est-à-dire qu'à la préhistoire, c'est déjà un site habité. Et ensuite, dès l'instant qu'on va construire des structures de défense féodales, on va s'intéresser à ce site-là. Et il y aura plusieurs châteaux qui vont être construits jusqu'à arriver à bien armer le château que l'on voit aujourd'hui et toutes les substructions de ce château. L'habillage donc du rocher lui-même, tout ça c'est vraiment un château fort, c'est-à-dire un château très très puissant, très bien défendu sur le plan militaire. Alors après, tout ce qui est en élévation évidemment a été refait, c'est vraiment à partir de la fin du milieu du 15e siècle que l'on change tout à fait l'aspect de ce château, mais au niveau des terrasses.
Quand se fait le passage, la mutation entre les forteresses et les châteaux de plaisance, les châteaux de rêve? Quel événement historique peut marquer la fin du Moyen-Âge?
C'est le passage entre le règne de Louis XI et le règne de Charles VIII.
Vous voyez juste un mot donc, ici. On a donc un bâtiment qui est construit dans les années 1494 à 1496. Donc sous le règne de Charles VIII, donc fils de Louis XI. Et donc cette construction, c'est vraiment du gothique flamboyant. On voit les lucarnes avec de chaque côté des pinacles, c'est-à-dire ces constructions en élévation qui sont comme des clochers en pierre. Alors ça, c'est vraiment des lucarnes gothiques typiques. On a un chemin de ronde qui n'est plus du tout un ouvrage militaire, qui existe encore, mais qui est comme un balcon ici sur un mâchicoulis. Et puis juste dans l'angle, un bâtiment qui va s'inscrire, qui va être construit en continuité, le chantier en fait continue. Et puis bon, le premier étage c'est pratiquement le même. À l'étage supérieur, il y a juste un effet de voûte au-dessus des fenêtres, ce qu'on appelle les arcs de décharge. Ça c'est une technique de construction qui permet de soulager le linteau au milieu de la fenêtre. C'est quelque chose que l'on voit très bien d'ailleurs sur des pavés en Italie. Donc là il y a déjà un petit quelque chose qui nous vient de l'extérieur. Et puis à l'étage supérieur, on commence à avoir un registre décoratif beaucoup plus fort. Et ces éléments avec des chapiteaux et des pilastres qui sont posés de chaque côté des fenêtres. Là, on voit bien l'influence italienne, la Renaissance qui va commencer à s'exprimer. Et puis on passe encore à l'étage supérieur avec les lucarnes. Et les lucarnes sont des lucarnes Renaissance. Et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on a un basculement qui s'opère, si vous voulez. Et à la faveur, en 20 et quelques années, eh bien on voit, c'est une génération, eh bien on voit que la Renaissance est passée en Val-de-Loire. Les chantiers, en fait, ont continué. C'est Charles VIII, Louis XII et François Ier.
Or aujourd'hui il fait très très beau parce que le vent a chassé tous les nuages, et ce qu'il y a d'extraordinaire c'est la couleur aussi. On ne pourrait pas rester sans lunettes de soleil devant ce château.
C'est une des difficultés ça, en même temps, parce que Julien Gracq a fait un écrit un jour sur je crois que c'est dans Un balcon en forêt, où il décrit la ville de Loches, bon, qui est vraiment une des villes de Touraine, et qui dit que la pierre est aveuglante. Alors, au milieu de la journée, elle est aveuglante. Et c'est vrai que cette pierre, qui est tellement belle le soir, parce qu'elle va capter les effets dorés du soleil, le midi, au mois de juin, c'est une pierre qui est très blanche, qui renvoie beaucoup trop de lumière, et c'est vrai qu'on a besoin de lunettes de soleil à ce moment-là. Hein.
Et quelles sont les couleurs de la Touraine?
C'est vraiment les couleurs de la France. C'est-à-dire, s'il y a une région qui exprime l'identité française, c'est-à-dire qu'une région, les couleurs dominantes, c'est quoi? C'est l'ardoise. L'ardoise qui est bleu-gris. C'est la pierre blanche, le tuffeau. Et puis, c'est la brique ou la tuile. Et on a une sorte de bleu-blanc-rouge comme ça qui s'exprime en architecture. Regardez les toits des villes. Une ville comme Amboise, une ville comme Blois. C'est-à-dire des villes où tout le centre-ville est très bien préservé. Et vous voyez, ce sont des couleurs qui sont les couleurs vraiment presque du drapeau national. Ce sont des régions ouvertes, c'est-à-dire qu'il y a un accent français qui est l'accent neutre, disons. C'est-à-dire que pour un certain nombre d'étrangers, c'est l'accent français le plus juste. Et en matière culinaire, en matière de gastronomie, c'est une région qui subit beaucoup d'influences extérieures. Il n'y a pas une très forte gastronomie régionale. Mais en revanche, on a une multiplicité de produits, de jardins, de viande, de poissons, etc. Et une gastronomie qui permet d'être une très bonne combinaison du savoir-faire de la cuisine française. Vous avez de grandes tables en Touraine, vous avez une multiplicité d'étoiles de chefs qui ont une bonne réputation. Bah, tout ça, je crois que c'est vraiment parce que cette région est une bonne expression de l'identité française.
moi, je pense toujours une espèce de gris bleu du ciel.
Irène Frein.
Je pense au toit de Blois, par exemple. Le toit de Blois, avec la Loire par derrière. Il y a un côté ardoise dans le Val-de-Loire. Ardoise mouillée, vous voyez. La gamme de tous les gris bleus. Des gris, des gris et des bleus extrêmement apaisants. Et puis, je crois que c'est la pierre blanche chauffée par le soleil. La pierre du tuffeau. Je dirais ça. Et puis, une certaine âpreté des sables de la Loire aussi. Des vieux jaunes comme ça, des vieux gris. Tout ça se mélange. C'est assez simple comme gamme de couleurs. C'est jamais violent. C'est comme le pays. C'est jamais violent. Tout se passe de façon souterraine.
Hein. C'est ce qui fait l'unité du Val-de-Loire, ses couleurs.
Alors, je pense, oui, ça commence à Gien et ça se termine à Ancenis. Hein. Oui, c'est l'unité.
Et les parfums?
Ben, sur les odeurs des maisons, pour moi, beaucoup plus que celles de la campagne. Parce que le tuffeau, comme c'est calcaire, ça absorbe l'humidité, et donc l'humidité absorbe les odeurs. Les maisons commencent à sentir à partir du mois de juin, par exemple. C'est assez étonnant. Ce sont des odeurs de jardin, des crèmes mouillées avec des roses, avec du foin dedans.
C'est un pays très sensuel, alors, pour vous, le Val-de-Loire.
Oh, mais c'est sensuel, c'est le pays de Rabelais, c'est le pays de Ronsard. Rabelais ne pouvait être ailleurs que de là. Oui, oui, c'est un pays de solide nourriture, de solides choses, de solides gens. Vous savez, les gens d'autrefois qui étaient là du temps de César, on les appelait les carnutes. Hein. C'était des gens qui avaient des trônes comme Depardieu. Moi, j'en connais encore plein dans la campagne. Des carnutes, hein, un peu blonds comme ça. Tibulle avait dit de la Loire, long de bleu du carnut blond. Beaucoup de blonds dans ce coin. Ça remonte. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas changé depuis les Gaulois. Et qui sont des gens qui ont cette espèce de à la fois de solidité et de folie. Des gens comme Carmet, ce ne sont pas des clichés. Moi, j'en connais des tas de clones de Carmet dans mon village. Et il y a cette espèce d'attention portée au plaisir, parce que ce n'est pas le plaisir brut. C'est d'attention gourmand des jardinières portée au plaisir. Ce sont des jardiniers du plaisir, ces gens-là.
Ciel, air et vent, plein et mont découvert, tertre fourchue et forêt verdoyante, rivage tord et sources ondoyantes, taillis rasés et vous, bocage vert, entre moussus à demi-front ouvert, prés, boutons, fleurs et herbes roussillantes, couteaux vineux et plages blondoyantes, Gâtine, Loire, et vous, mes tristes vers, puisqu'au partir, rongé de soins et dire à ce bel œil, l'adieu je n'ai su dire, qui près et loin me détient en émoi. Je vous supplie, ciel, air, vent, monts et plaines, taillis, forêts, rivages et fontaines, antres, prés, fleurs, dites-le-lui pour moi.
Ce français d'une extrême pureté, ce français qui l'a emporté sur le français de Paris. L'historien de François Villon que je suis peut vous dire que le français de Paris a été dominé par le français de la Loire, et peut-être heureusement d'ailleurs, car celui de la Loire était probablement plus délié, plus subtil, plus riche. Je ne suis pas en train de calomnier le français de Paris, mais celui de la Touraine, celui de l'Anjou, celui de l'Orléanais, était certainement beaucoup plus riche, et ce n'est pas par hasard qu'il l'a emporté. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui encore, ce sont des régions où l'on parle un français d'une très grande pureté. J'ai un souvenir personnel, est-ce que vous me permettez un souvenir personnel? La scène se passe à Tours, Elle se passe en 1951. J'étais étudiant. Je visitais les châteaux de la Loire sur mon vélo. J'étais à vélo. Et le soir, j'avais l'intention de continuer mon voyage par le train. J'ai voulu mettre mon vélo à la gare. Je suis arrivé à Tours. Il y avait une concierge qui chevauchait une chaise sur le pas de sa porte. Et je lui ai demandé, pardon madame, la gare. Elle m'a répondu cette phrase que je n'oublierai jamais. « Eh bien monsieur, vous n'en êtes point du tout éloigné. Le point du tout éloigné, je puis vous jurer que c'est vraiment là une langue qui, déjà à ce moment, avait déserté Paris. »
Les historiens de l'art ont mis en relief deux périodes de la Renaissance française. Ils les ont appelées Première Renaissance et Deuxième Renaissance.
Christine de Buzon.
Évidemment, ils ont raison. La Première Renaissance, elle est caractérisée par une certaine fantaisie dans l'ornementation, en particulier des palais, alors que la Seconde Renaissance est plus moderne, si je puis dire, c'est-à-dire plus proche du XVIIe siècle, ce qui signifie qu'elle est plus proche de l'Antiquité. C'est-à-dire que, paradoxalement, vers 1550, pour être très moderne, il faut s'inspirer donc des traités d'architecture antique et rechercher, sinon la sobriété, du moins la symétrie et le respect des ordres tels qu'ils ont été définis par les architectes de l'Antiquité. Finalement, c'est un peu la même chose dans la littérature. Il y a une première Renaissance et une deuxième Renaissance, et après 1550... plus précisément après 1549, c'est-à-dire la défense et l'illustration de la langue française, il est clair qu'il faut imiter le plus possible les genres antiques, et donc Ronsard et du Bellay et tous leurs amis de la Pléiade vont remettre en honneur ces genres-là. Donc être moderne vers 1550, c'est être le plus proche possible de ce qu'on croit être l'Antiquité. Et c'est ça la modernité, elle va vers une sorte de simplification et paradoxalement de retour à la tradition. C'est-à-dire un abandon de ce qui faisait le style français. C'est-à-dire un chapiteau ou un texte vers 1530, il est nettement identifiable comme français par rapport à ce qu'on faisait en Italie à la même époque. Après 1550, l'art français tend à se rapprocher le plus possible de l'art italien. C'est-à-dire qu'on va vers un art européen. Sans doute un affaiblissement de l'identité française, entre guillemets. Mais c'est là aussi que cette identité se réalise.
C'est toujours un peu fantasmagorique, un château. On projette beaucoup de fantasmes. Alors, est-ce que Amboise... Et comme ça, un réceptacle un peu de...
Un des éléments d'identité d'Amboise, c'est, je trouve, est tout à fait perceptible le soir. Le soir, ici à Amboise, avec la Loire, la lumière, vous avez vraiment l'impression d'être posé dans une ville italienne, dans la soirée. Et vous avez une sorte de magie, si vous voulez, du lieu, qui est un peu difficile à décrire, mais qui fait que le lieu, il est habité par une identité extrêmement forte, qui est celle d'un art de vivre extrêmement sophistiqué et raffiné. C'est à la fois l'art de vivre ici en Val-de-Loire, et c'est l'art de la vie de la Renaissance, et c'est l'art de vivre aussi des Italiens. Le goût des Français pour l'Italie vient un peu de ça, c'est qu'on s'y sent assez bien, mais on s'y sent assez bien avec une perception du raffinement, de l'art de vivre. C'est un côté esthétique comme ça.
C'est un groupe d'allemands.
Non, on va passer devant. Mais c'est drôle, hein, parce qu'il y a beaucoup d'Italiens qui vivent à Amboise. Descendez la rampe du château, la pâtissière en face, c'est un mari marié avec un Italien. Enfin bon, mais c'est quelque chose d'extrêmement palpable. C'est assez rare de voir des gens qui parlent italien. À Amboise, j'ai rencontré un certain nombre qui vont faire l'effort de parler italien. Et pas seulement pour des préoccupations commerciales, il y a naturellement un goût.
Ouais,
Alors c'est une toute petite chapelle, c'était une chapelle privée, c'était pas la grande collégiale du château, c'était une toute petite chapelle qui était en fait raccordée, qui était enchâssée dans le corps de logis donc des reines et qui donnait donc accès à ce que nous avons vu tout à l'heure, donc le logis des sept vertus. Donc le bâtiment lui-même est construit à la fin du XVe siècle avec un registre décoratif qui est une bonne expression du registre décoratif gothique flamboyant avec deux rangées de frises et ce sont des artistes flamands qui ont travaillé ici. Il faut savoir évidemment que par exemple Louis XI, qui a été un des rois qui a commandé ce chantier, avait été très influencé à la cour de Philippe le Bon par le savoir-faire des artistes flamands et notamment donc lorsqu'il a fait faire cette petite chapelle langoise. Sans doute a-t-il demandé aux meilleurs artistes de l'époque de travailler ici pour la réalisation de cet ouvrage. Alors évidemment, les vitraux sont modernes, ils ont été soufflés pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que les ponts sur la Loire ont été visés par les bombardements, comme vous le savez. Les vitraux modernes donc, représentent toute la ville de Saint-Louis, figure emblématique donc, de la famille royale française, et la structure propriétaire aujourd'hui s'appelle Fondation Saint-Louis, donc c'est tout à fait clair. Et donc, ici, une plaque commémorative, donc, puisque les cendres de Léonard de Vinci ont été ramenées ici à la fin donc, du XIXe siècle, au moment en fait, de l'unité italienne. Il y a eu un projet diplomatique de redonner à l'Italie les cendres de Léonard de Vinci, pardon, au moment de l'unité italienne. C'est Napoléon III, bien sûr, qui était l'empereur. Et en fait, le projet est abandonné, puisque donc, le tombeau de Léonard à Florence est vide. Le projet est abandonné, ce qui fait que les cendres de Léonard sont restées ici en bas. Ce qui est assez surprenant pour les Italiens d'ailleurs, parce qu'ils pensent tous que, enfin beaucoup pensent que Léonard est à Florence. Non, c'est dans voilà. Donc voilà, c'est là. 300 mètres. Il est mort ici donc en 1619. Il a obtenu donc l'autorisation d'être enterré au château d'Amboise, qui est normalement un privilège réservé aux membres de la famille royale, pas du tout à des personnages extérieurs. Mais que voulais-je dire sur Léonard, son travail quand même. Ici en Touraine, dans son séjour à Amboise, est quand même assez modeste. Il a participé par contre à des conceptions de fêtes ou des choses comme ça, autour. Donc c'est le début du règne de François Ier. Donc le roi est encore beaucoup à Amboise à ce moment-là. Et Léonard va contribuer, si vous voulez, un peu au panache du début du règne de François Ier.
À des conceptions de fêtes, donc un art tout à fait éphémère.
Tout à fait, voilà, c'est ça. Vous savez, c'est l'idée donc de ces effets pyrotechniques ou techniques avec des jeux d'eau, etc., que Léonard va inventer avec beaucoup de talent, et qui seront très surprenants pour les membres de la cour au début du XVIe.
La reine-mère Elisabeth d'Angleterre arrivera demain soir à Tours, venant de Londres par avion.
Eh bien, aucun oukase de Whitehall n'étant venu faire obstacle à son projet, la reine Elisabeth, la reine-mère, s'envolera demain pour le pays cher à Ronsard. Son avion personnel la déposera sur l'aérodrome de Tours, d'où elle gagnera le château d'Artigny, qui est aussi un hôtel. La reine-mère et sa suite occuperont tout le premier étage de ce château, et de ses fenêtres, elle aura vu sur le cours langoureux de l'Indre. À partir du château d'Artigny, la reine-mère, qui est passionnée d'histoire, se propose de visiter notamment les châteaux de Chambord, de Chenonceau et de Cheverny, où elle sera l'hôte à déjeuner du marquis et de la marquise de Vibray. Vendredi, un thé est prévu au château d'Ussé, chez le comte et la comtesse de Blacas. La reine-mère s'arrêtera également chez le docteur Carvalho, propriétaire du château de Villandry. Mais elle espère surtout passer plusieurs heures à l'abbaye de Fontevraud, où sont enterrés, comme vous le savez sans doute, Henri II d'Angleterre et Richard Cœur de Lion. Dimanche matin, l'avion de la reine-mère se posera à Melun, d'où elle ira visiter le château de Fontainebleau avant de regagner Londres. Ici Londres, à vous Paris.
Il y a en Touraine sûrement des sympathisants monarchistes, comme dans beaucoup de régions françaises, et singulièrement dans le grand ouest de la France. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait plus qu'ailleurs.
Jean-Louis Sureau.
Il y a une singularité d'Amboise dans le fait que la famille est propriétaire de château depuis plus de 2 siècles et que les princes viennent à Amboise régulièrement. Le comte de Paris vient à Amboise régulièrement, reçoit en famille à Amboise. Donc là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus un lien entre une famille propriétaire et la ville, avec des liens qui sont extrêmement forts, qui marchent très bien.
Donc les habitants d'Amboise sont fiers de leur château, bien entendu. Oui. Ça représente quelque chose de plus qu'un simple patrimoine artistique.
C'est un peu l'enjeu de nos affaires aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est à la fois un lieu dans le paysage et symbolique qui est au-dessus de la ville, donc c'est le château dans la ville. Bon, ça c'est un schéma assez classique.
Mais ce n'est pas le château qui écrase la ville.
C'est pas le château qui écrase la ville. Il n'y a pas d'opposition entre les gens du château et la ville, ce qui est aussi un point très très important. Et au-delà de ça, pour beaucoup d'Amboisiens qui travaillent directement ou indirectement grâce à l'activité touristique, le château est quand même une locomotive formidable pour l'activité touristique.
Mais au-delà de l'activité touristique, vous considérez qu'il reste quand même quelque chose, un esprit qui serait lié à certaines valeurs?
Oui, il y a un élément fort qui est important sur l'ensemble des châteaux de la Loire, c'est ce courant de la Renaissance, qui est un courant qui nous vient d'Italie. Même s'il faut y mettre un certain nombre de bémols et d'aménagements, mais il y a une influence italienne qui passe en Val-de-Loire à la faveur de ce passage entre les 2 siècles, en gros, pour être un peu schématique dans les dates. Mais au-delà de ça, le lieu d'entrée de l'italianité en Val-de-Loire, c'est Amboise. Et l'influence italienne, avec tout ce que ça peut avoir, c'est-à-dire une façon de vivre, une façon d'être, notamment par rapport à l'extérieur, le fait de vivre dehors, de dîner dehors, etc., ça, à Amboise, c'est manifeste. C'est-à-dire le fait de vivre en terrasse, de sortir, l'amour du jardin, beaucoup de choses comme ça, qui sont profondément des influences, si vous voulez, qui sont pour moi très latines, c'est très italien ça. Et ça, c'est perceptible ici à Amboise mieux que sans doute beaucoup d'autres villes. Et c'est aussi un sorte de fil conducteur dans l'ensemble de Château de la Loire, c'est-à-dire qu'on va retrouver cette influence italienne dans la construction et ensuite dans l'aménagement, dans l'usage d'un registre décoratif qui est largement emprunté à l'Italie. Eh bien, vous voyez, ça, c'est quelque chose qui a vraiment des manifestations concrètes aujourd'hui encore.
C'est plus la Renaissance alors que le Moyen-Âge qui a marqué la région.
Le problème, c'est que pour expliquer quelque chose, on procède toujours par opposition. Et en fait, entre le Moyen-Âge et la Renaissance, on le voit ici assez bien en Amboise, le glissement s'opère, mais de façon comme ça, en continu. Tous les aspects qui sont les aspects culturels, à la fois politiques, décoratifs, artistiques, enfin tout ce que l'on peut mettre dans ce vocable culturel, vont s'enrichir d'éléments nouveaux et extérieurs. Et tout ça va être une combinaison assez bien faite, assez rapidement faite, en une génération ça va se faire, et ça va amener une autre perception de l'environnement. Mais c'est la dimension qui change. C'est plus un environnement limité, c'est un environnement qui va s'élargir très fortement. C'est-à-dire que l'influence extérieure va amener un goût de l'extérieur et va amener, si vous voulez, à la faveur des conquêtes, etc. Enfin, tout ça arrive en même temps. Et tout ça va amener une perception de l'individu dans l'espace qui n'est plus du tout la même. Pour moi, la Renaissance s'inscrit très clairement et profondément en continuité du Moyen-Âge. En enrichissement, en transformation, mais en continuité.
Ce qui se sent dans l'architecture.
Ce qui se sent très fortement dans l'architecture. Tout à fait. Dans les bâtiments eux-mêmes, si vous voulez, l'imbrication de bâtiments, de corps de logis renaissance dans les structures médiévales s'est opérée de façon extrêmement harmonieuse.
Et on n'a pas commencé par bâtir à côté des vestiges, enfin de l'architecture du Moyen-Âge, on a modifié l'architecture médiévale.
On a un peu tout fait, c'est-à-dire que l'on a un peu, on a surajouté, on a parfois comme Amboise détruit,
à casser les bâtiments médiévaux pour édifier de nouveaux bâtiments.
On a ouvert, on a percé les fenêtres.
On a percé les fenêtres, on a changé. À Amboise, c'est plutôt dire, bon, on fait presque table rase du vieux château et on construit un logis pour les temps modernes.
Florent.
C'est à peu près à cette époque que les jardins ont été étroitement associés au château, parce qu'avant, le jardin, c'était un espace de fleurs où l'on cueillait quelques végétaux, quelques fleurs pour les autels de l'église, ou des cultures potagères pour le cloître ou la grande maisonnée des châteaux. Mais le jardin tel que nous l'imaginons, ce jardin qui réjouit la vue et qui est beau comme une œuvre d'art, cette association château-jardin a commencé en effet à la Renaissance française. Charles VIII, après son retour en 94-95, a rapporté, si je puis dire, dans ses bagages de nombreux spécialistes italiens, fontainiers, jardiniers, architectes, etc., et qui ont enrichi les jardins français jusqu'au grand siècle de Louis XIV. La circulation des idées, la circulation des hommes, la circulation des biens, on croirait un panégyrique de l'Europe actuelle, c'est ça, n'est-ce pas, a provoqué ce développement du goût, ce développement des arts, ce besoin du bonheur avec la richesse, chez des gens qui étaient naturellement cultivés. Et l'art des jardins a été un phénomène assez nouveau, précisément parce que les maisons se sont ouvertes. Villandry a encore un élément que vous pouvez voir, qui est une vieille tour de 1100 et quelque chose. Bon, donc c'était des forteresses. C'était des forteresses qui ont été ou rasées ou adaptées, comme Villandry d'ailleurs. La forteresse, elle est devenue un château de plaisance avec loggia à l'italienne, bien entendu. Et ces forteresses ont été ouvertes parce qu'il y avait la sécurité. Une sécurité relative, mais une sécurité quand même. Donc, la maison pouvait s'ouvrir et le jardin devenait le salon de plein air, le salon d'été, l'appartement supplémentaire où l'on pouvait déployer tous les fastes, évidemment, les banquets, les fêtes de nuit, etc. Et c'était une autre dimension de la vie quotidienne qui n'était plus calfeutrée, qui n'était plus resserrée, mais qui s'ouvrait sur un ensemble de beauté, parce que quand même, les fleurs, les jardins, mais avec toujours cette volonté de domination, voire les taupières, ces arbres que l'on taillait rigoureusement en forme d'animaux, en forme de croissants, de lune ou de soleil, en précisant bien qu'il s'agissait là de maîtrise de la nature, qu'il ne fallait pas laisser aller son petit train de sénateur.
À Villandry, avec Henri Carvalho, arrière-petit-fils du docteur Carvalho, qui a recréé au début du siècle les jardins Renaissance de Villandry.
Oui, alors, donc à partir de ce point haut, eh bien, on a une vue complète sur l'ensemble des jardins et du paysage environnant, avec notamment donc, toute la Loire que l'on peut deviner sous le coteau qui borde l'horizon, le Cher ensuite, plus près de nous. Un paysage assez tourangeau, justement, assez doux. Il y a autour du jardin donc le village, les belles maisons du XVe siècle et l'église romane. Et puis les trois niveaux ensuite de jardins bien distincts. Alors au niveau le plus bas, le potager décoratif. Ensuite le jardin d'ornement, de buis, de fleurs et d'ifs. Et puis au dernier niveau, le jardin d'eau. Voilà, je crois qu'on peut continuer.
Quelles sont les plantes que l'on trouve dans le potager, puisque nous sommes au niveau du potager?
Alors dans ce potager, ce sont des légumes tout à fait courants finalement que l'on peut trouver. Il y a des fèves ici. Donc on a deux cultures. Actuellement, on a la culture de printemps qui est en place. Il y a beaucoup donc au printemps de différentes laitues, la bolle rouge, la bolle verte. Là, ce sont des navets au premier plan. Et il y a autour de chacun de ces carrés de légumes un entourage de fleurs. Donc on a les fleurs d'été qui sont déjà en place, des tabacs, des ageratums, de la verveine. Et puis des pommiers ici en cordon et des poiriers. Tout est très géométrique. Il y a par carré de potager 16 poiriers et 36 rosiers-tiges qui sont alignés de façon tout à fait régulière.
Et les couleurs sont en partie données par les légumes.
Oui, la structure donc est donnée par le buis, par ces petits buis nains. Et les couleurs varient au cours de la saison et sont données par les légumes. Et il faut justement chaque année réfléchir aux légumes que l'on mettra dans ces différents petits carrés en songeant à respecter des critères d'assolement triennal, donc ne pas mettre des choux deux années de suite au même endroit, mais aussi en cherchant à harmoniser les formes et les couleurs.
La taille des buis et des bordures de buis doit être un des travaux très importants dans l'année, parce que
oui.
Ça doit représenter des centaines et des centaines de mètres de buis.
Alors, si on calcule le développement linéaire de tous ces petits buis, il y a 7 km en fait de rien, il y en a pour 7 km, donc rien que pour le potager. Il y a dans les autres, sans compter les autres jardins. Ce qui représente un travail important qui est d'ailleurs en train d'être réalisé. On peut s'avancer un petit peu plus dans le potager pour voir certains carrés. C'est en train d'être réalisé. Elle s'effectue une fois par an, cette taille des buis. Et par ailleurs, nous décidons avec donc le chef jardinier d'introduire chaque année quelques nouveautés. On aura par exemple pour l'été prochain des poivrons jaunes et des aubergines, une nouvelle variété d'aubergines blanches qui est assez jolie, qui sera introduite.
Et en quoi Villandry, les jardins de Villandry, vous paraissent-ils représentatifs de l'identité française et de l'esprit français ?
Eh bien parce que, je dirais ce que un grand spécialiste disait de Vaux-le-Vicomte, ce sont des jardins de l'intelligence et non pas de la sensibilité, qui est en soi tout à fait respectable. Ce sont des jardins de l'intelligence et l'intelligence parle nécessairement et ordre.
Et les plantes d'été ?
Alors, il y a des choux d'ornement. L'une des spécialités de Villandry sont de gros choux d'ornement qui deviennent soit blancs, soit rouges à l'automne. Ce sont des légumes d'été, alors des aubergines, des poivrons, du céleri doré, des poireaux, différentes variétés de poireaux, du poireau bleu, du poireau violet. Il y a plus de couleurs dans ces légumes d'été qu'au printemps, mais il y a moins de régularité géométrique.
On a le sentiment qu'ici, il y a un carré, là, il y a un autre jardin, là, encore un autre jardin, que leurs couleurs se complètent, que leurs dimensions se complètent, que on y sent un axe du matin au soir, du lever du soleil. Dans la forêt, c'est peut-être une extrapolation un petit peu hardie, mais il y a à Villandry une partie très boisée que l'on peut assimiler à une petite forêt, donc la partie sauvage de Villandry. Puis le soleil, dans sa course, va passer sur le jardin ordre établi en trois niveaux, puis se coucher derrière le village et l'église, parce que Carvalho était très chrétien. Ainsi, il y aura les trois ordres, le sauvage, l'ordre humain et l'ordre religieux.
D'une très grande liberté d'esprit. esprit, une très grande inventivité. Est-ce que cet esprit se ressent encore dans une région comme la Touraine? Est-ce qu'il n'y a pas inversement maintenant un repli sur un patrimoine historique? Est-ce qu'il n'y a pas un côté conservateur? Et est-ce que cet esprit de la Renaissance ne s'est pas mué finalement en une certaine forme de conservatisme?
Oui. Est-ce que l'on a encore l'esprit de la Renaissance quand on vit dans un cadre Renaissance? Un glorieux passé est parfois un formidable handicap, dans la mesure où effectivement on est un peu prisonnier, si vous voulez, de ces lieux, et qu'il faut faire très attention à ne pas s'enfermer. Alors c'est vrai sans doute que ces régions sont naturellement assez conservatrices parce que elles ont le souci de conserver leur patrimoine en tant qu'élément identitaire. Les Tourangeaux sont assez fiers de leur patrimoine, le visitent beaucoup. Dans nos visiteurs, il y a beaucoup de gens de Touraine qui viennent et qui reviennent voir les châteaux. On est ravis, c'est pas le problème. Mais au-delà de ça, c'est vrai que, en comparaison peut-être d'autres régions, il est plus difficile de vendre l'idée de faire de l'art contemporain, par exemple, en Val-de-Loire, quand dans une région qui aurait un passé qui serait peut-être moins encombrant de ce point de vue. Même si, on le voit bien maintenant, quelques exemples nous montrent quand même qu'on peut faire des choses.
Parce que près de Saché, il y a une fondation d'art moderne.
Oui, mais il y a quand même, enfin si vous voulez, on parle aussi en globalité, et puis il y a des exceptions notables. C'est-à-dire que, bien sûr, Calder est une exception notable, c'est-à-dire qu'il y a des artistes contemporains qui choisissent cette région justement parce qu'elle offre un cadre très riche, qu'elle offre un cadre qui a une substance très forte pour venir travailler. Olivier Debré travaille depuis très longtemps en Touraine, Calder a travaillé très longtemps en Touraine, Davidson a travaillé en Touraine, les musiciens Poulain et Léo ont travaillé. Donc la Touraine aussi est une région extrêmement ouverte. Physiquement, géographiquement, c'est une région extrêmement ouverte. C'est-à-dire que c'est une région qui naturellement s'enrichit des apports extérieurs. C'est vrai la Renaissance, c'est toujours vrai. C'est-à-dire aujourd'hui encore, c'est une région dans laquelle il est facile de s'installer. Les Tourangeaux ne sont pas des gens qui ont une frilosité à l'égard des gens qui viennent de l'extérieur. Pas du tout. Et ça, c'est assez notable. Beaucoup de gens que vous verrez en Touraine, que vous rencontrerez, qui sont des acteurs de la vie tourangelle, ne sont pas originaires de Touraine.
Les Châteaux de la Loire, une émission de Françoise Esteb, avec Jean-Pierre Babelon, Jean-Gilles Bader, Christine Debuzon, Henri Carvalho, Jean Favier, Maurice Florent, Irène Frein, Jean-Louis Sureau et les voix de Maurice Genevoix et André Aubé, archives INA. Texte de Peggy, Rabelais et Ronsard, dit par Gérard-Henri Durand et Catherine Laborde. Les textes des écrivains sur les châteaux de la Loire ont été réunis par Christine Debuzon dans une anthologie, Les châteaux des écrivains. Prise de son, Michel Bertin. Mixage, Manuel Couturier, Marie-Dominique Bougot. Réalisation, Mireille Cros.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 juin 1997. À suivre, et d'ici là à télécharger sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.